pour la dernière séance d'upgrade de cette année, puisqu'il n'y en aura pas en décembre, on va être en vacances. On a donc David Guez et Annick Rivoire. Je vais les laisser se présenter. Donc Upgrade est un réseau international de conférences qui a lieu dans, un petit peu partout dans les villes du globe. Le format qu'on a adopté à Paris, c'est une heure par mois. Un artiste vient présenter, un artiste du numérique au sens le plus large du terme, vient présenter son travail. On est plutôt très content du fait d'avoir à chaque fois des modérateurs et de faire ça sous forme de dialogue. Donc voilà, je vais vous laisser la parole. Bonne soirée.
Alors bonsoir. Bon, alors moi, c'est pas moi l'artiste, c'est donc David, comme ça que les choses soient claires. Moi, je suis journaliste, je m'appelle Annick Rivoire et j'ai fondé un média sur les cultures électroniques qui s'appelle Poptronics. Et donc, je ne suis pas là pour parler de Poptronics, mais pour parler de David Guez, qui est un artiste qui a participé à l'aventure Poptronics et surtout qui est depuis plus de 15 ans sur les réseaux et qui travaille avec l'Internet et les nouveaux médias. Alors, il a imaginé les usages les plus contemporains de l'Internet avec 10 ans d'avance sur les technologies elles-mêmes. Donc, par exemple, aujourd'hui, tout le monde connaît YouTube, MySpace. Et dès 1999, David avait anticipé cette envie warholienne d'accéder à beaucoup plus que 15 minutes de célébrité avec TVArt.net, qui était une télévision sur le net.
Je vous montre en même temps des extraits.
Mais je t'en prie, c'est fait pour. Donc pendant que je parle, vous allez voir sur à l'écran les traces de ces interventions artistiques sur le réseau, sachant que comme ça date de 99, je passe assez vite parce que l'idée c'est quand même de parler de la création de David aujourd'hui, mais quand même de montrer qu'il a depuis longtemps réfléchi à ce qui s'y passe sur les réseaux. Donc TV Artnet, c'était une... Moi, j'ai rencontré David il y a quelques années de ça. Il avait toujours une caméra, une toute petite caméra à l'épaule et il anticipait un petit peu les vidéoblogueurs d'aujourd'hui. Il était à la fois journaliste, artiste, blogueur et il allait dans les vernissages et il interviewait les artistes et il a fait plus de 500 documents vidéo. Ensuite, il a consulté les web, qui mettait à disposition de chacun les outils pour monter sa web télé. Donc c'était évidemment avant, bien avant YouTube et Dailymotion et compagnie. En 2000, alors que la bulle Internet venait d'exploser, lui proclamait la fin du web et prophétisait l'avènement du peer-to-peer avec videofluxus.net. Donc là... Voilà, vous devez me faire confiance. C'était donc un réseau peer-to-peer artistique, donc c'est pas si loin du projet qu'on a vu avant, In Out, qui anticipait les échanges des fichiers musicaux et de films qui aujourd'hui font de nous tous des pirates au sens gouvernemental du terme, puisque vous savez qu'il y a un projet de loi en ce moment qui est discuté, qui devrait être adopté et qui risque de faire de nous des exclus du réseau. Et puis en 2003, il proposait Ecart. C'était un centre de diffusion numérique partagé basé sur l'utilisation et la propagation d'un mot-clé via les réseaux de peer-to-peer. Alors, encore une fois, je passe assez vite. En 2006, il propose 1400 cm3, qui est un éditeur de blog qui est toujours, parce que là il est encore en ligne, aussi efficace que les équivalents type Skyblog, WordPress, etc., mais plus simple, moins formaté, plus coloré aussi, qui propose une navigation un petit peu différente et qui a su séduire une communauté de jeunes. Entre autres, il n'y a pas que des jeunes dessus, mais l'idée c'est qu'on peut se connecter, faire son blog avec un système de petits post-it qui sont voilà, on peut mettre des flux audio, vidéo, bref, comme dans un blog classique. Alors moi je dis souvent de David qu'il aurait pu devenir riche. Parce qu'il avait toujours des idées. Enfin, on sait que les inventeurs de Dailymotion, YouTube, de Facebook sont maintenant des millionnaires, voire plus. Mais lui, il n'est pas un start-upper, il ne lève pas des millions, il n'a pas d'entreprise high-tech, il pense toujours dans ses projets à la communauté citoyenne, il retourne un peu les technologies vers leurs utilisateurs et il gratte un peu la couche superficielle du web mondial qui de plus en plus est privatisée. Et s'il s'est plongé depuis plus de 10 ans dans cette révolution des médias électroniques, c'est bien pour y insuffler un petit peu de cet esprit de liberté, de contestation propre aux artistes, et qui est totalement en phase avec cette forme de culture du réseau. Alors, au-delà d'une catégorie, le NetArt qui a fait long feu, puisque ses inventeurs ont décrété la mort du NetArt, David Guaise est l'un des rares créateurs français qui répondent à la définition de l'artiste réseau. C'est-à-dire que c'est un mélange des réductions maladives pour le support qu'il investit. Alors, il faut dire qu'il est un petit peu informaticien à la base, donc ça aide. Et puis, une mise en abîme permanente de la fascination que ces nouvelles technologies exercent en positif et en négatif. Par exemple, un de ces projets que j'aime particulièrement, c'est 2067, email vers le futur. Donc, il propose d'envoyer un email dans le futur. Donc, si vous voulez, envoyer un email à votre partenaire du moment pour qu'il le reçoive dans 10 ans. C'est une façon de siffler une sorte de coup d'arrêt au flux dégoulinant du réseau et de l'information. C'est aussi une façon d'être totalement à rebours du côté temps réel et instantané du réseau. Et c'est une façon aussi de réintroduire le charme de l'attente. Et puis, c'est aussi une belle manière, je trouve, de retourner la question de l'ubiquité, une sorte de tarte à la crème sur l'Internet, et de la retourner en angoisse temporelle. Donc, c'est pas forcément positif. Voilà, c'est un truc perso, quoi. C'est-à-dire, vraiment, c'est un mail que tu envoies et que tu reçois, enfin, que le récepteur recevra quand tu as décidé qu'il le recevra. Et, bon, s'il est mort, c'est dommage pour lui, quoi. Voilà. Alors, ce projet d'email dans le futur fait partie d'un projet plus vaste qu'il a intitulé l'hypermoi, qui préfigure une hyperconscience connectée en permanence à la matrice Internet. Donc là aussi, David s'attaque à l'un des fantasmes les plus ancrés dans la net culture, celle qui dit que nous serions certes des êtres de chair et de sang, des êtres réels, mais que nous aurions déjà plongé d'une certaine manière sans nous en rendre compte dans un univers de science-fiction où on serait tous des cyborgs. Mais lui, cet hyper-moi qui serait déconnecté de notre propre conscience, c'est quelque chose qui est assez vertigineux et qui ferait évidemment les délices de certains psychanalystes. Alors ensuite, je zappe directement au lancement du site poptronix.fr, donc le média que j'ai fondé avec l'aide de David Guaise et d'autres artistes, des chercheurs, des critiques d'art et des journalistes. Et lui, c'est coltiné le premier Pop Lab. C'est sur le site, il y a un espace un peu laboratoire qui est un magazine en PDF qui se veut une passerelle entre les artistes du réseau, les artistes offline, qui se veut aussi une passerelle entre l'écran et le papier, puisque le PDF est un format qui a la particularité de pouvoir être imprimé et de ressembler à une page maquettée d'un magazine, mais qui en même temps a des particularités hypertextuelles. Donc c'est déjà un hybride. Et donc lui a réfléchi à un projet pour ce support et ce Pop Lab, et il l'a appelé le disque dur papier. Alors donc, en résumant en 2 secondes, c'était l'idée que l'internaute lecteur pouvait archiver en minuscule, et vous allez voir de quelle façon, un petit bout de fichier informatique. Donc l'idée, c'est de pouvoir archiver son disque dur total, mais en l'occurrence on l'a limité parce que sinon on n'aurait pas pu tenir sur le serveur, quoi. Mais sinon, c'est donc un fichier qui est réduit sous forme binaire sur papier et en tout petit, de façon à ce que ce soit le plus facilement, le plus pérenne possible, puisque finalement le papier est un des formats les plus pérennes qui soient, beaucoup plus que tout ce qui est support de stockage. La disquette a disparu, maintenant on en est aux clés USB, demain on aura sans doute d'autres supports d'archivage. Et alors je voudrais citer la façon dont il l'expliquait dans un entretien avec la critique Elisabeth Lebovici, parce que je suis retombée dessus et j'ai trouvé que c'était hyper pertinent. Alors David disait « Où sont nos traces? Comment savoir sur quoi elles se fixent? Le monde entier est-il un support de sauvegarde, de mémoire? La sauvegarde, c'est une forme de conscience du moment présent, arrêtée, posée, figée, objet possible de toutes les réinterprétations. Le disque dur papier nous relie irrémédiablement à la machine car il nous offre la possibilité de nous en passer, tout en conservant dans un coin de notre tête l'idée qu'au moment venu, il faudra y revenir. Plus je zoome vers l'infiniment petit...
Plus je n'arrive pas à zoomer vers l'infiniment
petit... moins j'ai de chance... voilà. Moins j'ai de chance de pouvoir le décoder avec les outils du moment. Ainsi, je peux décider d'imprimer un document qui ne sera lisible qu'avec les technologies du futur. Je pense à ces projets de lunettes astronomiques qui voient dans le passé... grâce au temps que met la lumière à nous parvenir et remonte jusqu'aux trois premières secondes après le Big Bang. C'est fantastique, ça. Voilà. Alors, David n'est pas qu'un génial renifleur de tendance. Ses actes artistiques ont aussi un sens politique. Ils poussent chacun d'entre nous à prendre conscience de nos actes. Entre autres, il a participé aux rencontres Internet Mon Amour à Beaubourg, où il a parlé de Facebook et de Google et des dérives possibles qu'installent ces géants du réseau quant aux données privées. Et si on l'envisage de façon critique, on pourrait dire qu'il pousse presque naïvement chacun de nous à réfléchir à la responsabilité de notre présence sur le net. Et à une certaine forme de citoyenneté électronique. Pour que le web et les réseaux ne soient pas qu'un vaste espace privatisé, précisément, où nous ne serions que les jouets des industries culturelles, qui deviendraient de plus en plus puissantes. Je m'explique. Avec Dotred, son dernier projet, c'est un espace 3D qui est aussi un jeu sérieux, qui est aussi une plateforme usant les mêmes qualités de réseau social que Facebook, par exemple. Il aimerait changer notre regard sur le logement et nous pousser à soutenir les associations de défense et d'aide au logement social en acquérant virtuellement une portion du territoire de Paris. Alors, symboliquement, ça voudrait dire qu'un internaute chômeur, en fin de droit, pourrait se retrouver propriétaire du Palais de l'Élysée pour quelques euros, en y posant un cube et qu'il aménagerait ensuite à sa guise. Et il deviendrait ainsi le roi de Paris s'il réussissait à convaincre un maximum de ses amis à investir également ce Paris virtuel. Et donc, voilà, je voulais justement te laisser expliquer un petit peu plus ce projet de retraite qui a été lancé au Flash Festival au printemps et qui est donc une plateforme qui pour l'instant a été développée en Flash, mais qui évidemment est évolutive et dans laquelle donc on peut aujourd'hui se connecter, acquérir donc un cube, on peut choisir de le faire plus ou moins grand en superficie, c'est avec Google Maps. Et puis il y a une interface Flash, quoi. Et donc ensuite on a un petit cube et puis on peut faire deux trois petites choses dedans. C'est pas aussi ergonomique et développé que Facebook évidemment, mais parce que c'est un projet d'artiste, donc ça n'a pas les mêmes moyens. Mais potentiellement c'est l'idée qu'ensuite une fois qu'on a ce cube, il augmente au fur et à mesure qu'on arrive à convaincre des amis comme dans Facebook de venir aussi investir Paris. Voilà. Je te laisse en parler un petit peu.
Le temps que ça redémarre. En tout cas merci beaucoup en tout cas.
Je t'en prie.
J'ai plus grand chose à dire à part le fait que je vous ai montré un peu au début. Et tout au long de sa présentation, une sorte de schéma que j'ai fait aujourd'hui qui résume un peu. Je vais essayer d'y retourner, mais alors là, j'ai plus rien du tout. C'est un peu lent, mais ça va arriver. Effectivement, sur une quinzaine d'années, le travail un peu que j'ai développé lié aux nouveaux médias, au numérique, au réseau. Donc, j'ai essayé de faire un schéma où j'ai mis les projets un peu dans le sens temporel, depuis le premier jusqu'au dernier. avec un peu des mots-clés comme ça aussi. Moi, je suis parti d'une pratique mixte, c'est-à-dire que j'ai fait des études d'informatique et des études d'art plastique. Donc, je suis arrivé dans les années 94-95 à me dire que ce médium qui est Internet était un médium assez extraordinaire puisqu'il était complètement ouvert, complètement libre et qu'il y avait quasiment une infinité de choses à faire avec. Et surtout à cette époque, il n'y avait pas encore grand-chose. Donc, d'un point de vue même plastique, pour moi, c'était vraiment passionnant de me dire qu'il y avait une vraie forêt vierge à exploiter, à explorer. Et moi, je suis un vrai geek au sens où j'ai commencé l'informatique à 12 ans. J'ai eu ma première machine. Alors, je la mets dans ce schéma parce que ça m'amuse. C'était en 81. C'était, pour ceux qui sont un peu, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais c'était une petite machine avec 1 kilo octet de mémoire qu'on branchait sur une télé et on arrivait directement sur du basique, sur un langage basique et on pouvait faire des choses très très limitées, mais c'était un truc très accessible pour tout le monde. En tout cas, donc j'ai vraiment cette culture depuis longtemps et c'est vrai que mon entrée un peu dans l'art a été un peu étrange puisque j'ai commencé par faire de la peinture, de la sculpture. Vraiment de l'art plastique, et je suis arrivé à me dire qu'il fallait que je prenne ce médium en main et que je le développe à ma façon. Donc j'ai fait le passage de. Tant pis, hein, je parle un peu des origines, mais
Je t'en
bon.
prie.
Voilà, c'est. Non, non,
C'est
parce
en
que
notre graine.
c'est. Ouais, voilà. C'est que finalement, c'est assez important parce que le début, souvent, on se rend compte de ça longtemps après, mais ce qu'on place au départ, c'est finalement ce qui se déroule tout le temps et qui s'affine et qui boucle, etc., etc. Donc, le premier projet que j'ai fait sur Internet que je n'ai plus, c'était en fait une sorte de blog qui s'appelait le Livre des liens. Et moi, je suis parti d'une notion. Enfin, mes références, elles sont plus liées à l'esthétique relationnelle, à Beuys, à Lévinas, à l'altérité. Donc, je suis vraiment parti sur une idée de. À l'époque, j'en ai fait un slogan de dire mon art, c'est l'autre. Et ça tombait bien, puisque Internet, c'était cette possibilité d'accéder à l'autre d'une façon ou très intime, ou très grand public, ou très massive, au sens de la masse. Donc, je suis vraiment parti sur cette idée de corps plastique, corps virtuel, opposition entre le corps plastique et le corps vi virtuel, entre ces échanges de flux. Et tout le livre des liens, en fait, c'était un livre qui relatait des expériences que je faisais avec des gens dans le réel et qui émettait des hypothèses sur ce qui pouvait se passer dans le futur. Et comme l'Internet, la base de l'Internet, c'est le lien, c'est l'hyperlien, il y avait un lien direct, je dirais, entre le lien réel, le lien de la rencontre, le lien de l'échange, le lien de la transmission, le lien du passage, et l'hyperlien tel qu'on peut le définir dans le réseau, qui est le lien entre les documents, le passage à travers les feuilles de papier, hein, si on reste sur l'image de la feuille de papier. Et finalement, ces notions-là de dire mon art, c'est l'autre, ça va développer tout ce que je vais faire après, en fait. C'est pour ça que c'est assez marrant. Alors après, ça va s'accentuer dans les années 95-96, j'ai fait toute une série d'installations où là, j'étais encore dans l'exposition plastique où j'ai fait de la crème de beauté recyclée Internet, de l'alcool recyclé Internet. J'ai vraiment fait le passage entre des flux de matière qui provenaient du virtuel vers le réel, sur des objets qui étaient imprégnés par cette matière virtuelle. Donc j'ai fait plusieurs expositions. Voilà, donc je passe, mais ça, vous verrez. Mon site, c'est guess.org, il y a tout qui est relaté. Voilà. Alors, ensuite, je me suis attaqué, je me suis dit, c'est quand même assez génial Internet, parce que pour la première fois, on va pouvoir, c'est un peu ce qu'a dit Annick, je vais pouvoir faire des choses, moi seul, dans ma cuisine, de la même façon qu'une grosse entreprise, sur des objets très massifs. Donc, je me suis attaqué aux médias, et de dire à l'époque. En orange, c'est un peu mes slogans, de dire nous sommes tous notre propre média, Internet peut nous permettre d'être notre propre média. Donc effectivement, Annick là, en a parlé, je lance plusieurs projets, là ils sont là, TVA, Téléweb, Videofluxus, etc., etc., qui vont questionner ces médias. Et moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est de me dire je lance un projet de telle façon qu'il fonctionne, il est dans le réel, il va attaquer le réel, il va poser des questions au réel, il va détourner, il va se placer presque comme un objet concurrent du réel. Donc à l'époque, c'était assez marrant parce que quand j'ai lancé Téléweb, bon, Télart, c'était une chaîne d'art, mais Téléweb, c'était un Vidéofluxus à l'époque. Et je me suis retrouvé en concurrence avec le portail de TF1, ils étaient en train de lancer leur portail, avec des très gros portails, et j'étais dans les conférences avec ces grosses boîtes qui, elles, avaient un modèle complètement différent, puisque dérivé de toute cette idée que Internet peut proposer de nouveaux modèles, il y avait aussi cette lutte entre, donc là c'est plus politique, c'est plus des questions sociétales aussi, de dire on a un terrain vierge, un nouveau terrain à explorer, et ce serait tellement dommage que ce soit seulement les grosses entreprises, et ce qui est aujourd'hui ce qu'on appelle aujourd'hui le Web 2, c'est-à-dire toutes ces grosses entreprises à la Google, MySpace, etc., qui reprennent le web dans un usage uniquement commercial. Donc, sur cette colonne un peu de changer les circuits de médiation, questionner la question de liberté, d'indépendance, je touche aux questions de l'activisme. C'est-à-dire que l'activisme, c'est une façon de dire je vais modifier quelque chose dans le système pour le transformer, pour le décaler, pour le détourner et pour en faire une autre proposition. Ça peut être plus ou moins visible. Voilà. Mais pour moi, c'était très important de dire le web, avec le web, on peut faire ça. Parce qu'on ne peut plus tellement le faire dans le réel, c'est trop compliqué. On est dans des systèmes très, très encadrés, très limités, et on peut toucher des millions de personnes potentielles pour attaquer des problèmes importants de la société aussi. Et l'artiste se place là-dedans comme un passeur, un médiateur, un espace de proposition, etc., etc. Donc effectivement, sur la démarche, c'est être très au courant de ce qui se passe, c'est essayer de trouver des propositions. Moi, j'aime l'art conceptuel, j'aime l'art minimaliste, j'aime l'esthétique relationnelle. Donc, c'est trouver aussi des propositions très simples. Alors, c'est vrai que, par exemple, le mail dans le futur, c'est très simple, mais à chaque fois, c'est 2 ans de mûrissement, de réflexion pour arriver à un projet qui soit simple. Écart, le projet Écart, qui travaille sur le P2P en 2003-2004, c'est un mot seulement. Et j'aime beaucoup l'idée qu'avec un mot, on puisse créer un centre d'art. À l'époque, je l'ai appelé un centre d'art électronique. Et les gens, il leur suffisait de rajouter un mot-clé à un fichier pour être dans une liste en fait, qui était déterminée par un mot-clé. Donc, aussi par rapport à la façon, à l'esthétique, j'aime beaucoup les projets qui ont une idée simple et qui sont aussi simplement compréhensibles par tous, puisque là, je vais m'adresser à ce que j'appelle la masse, c'est-à-dire à tout le monde, et j'aime beaucoup cette idée.
Et c'est aussi une des caractéristiques de ton travail, c'est que souvent on te demande, mais c'est quoi la dimension artistique ? Parce qu'effectivement, il y a toujours des projets qui viennent de la sphère commerciale et industrielle et qui sont pas si éloignés, quoi.
Oui, c'est ça, puisque je vais m'attaquer aux structures existantes, aux structures dominantes et voilà, et un peu les embêter. Alors c'est très compliqué parce que ça veut dire quelque part faire ça avec zéro moyen. Moi je suis pas très fort pour aller trouver de l'argent, je suis pas du tout commercial, etc., etc. Donc je suis très axé sur l'art public, donc c'est toujours alors en 2000 il n'y avait pas de subvention, en 99-2000 il n'y avait absolument rien, maintenant il y en a un peu, mais c'est aussi des fils, donc ça reste quand même des projets assez fragiles face à ce qu'on appelle aujourd'hui le Web 2, donc Google, MySpace, etc., des grosses entreprises qui ont plusieurs milliards généré par la publicité. Donc j'ai fait aussi des projets sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux, tout ce qui est Facebook, MySpace, etc. Donc des projets plutôt critiques. Je me suis placé comme un éleveur de réseaux sociaux dans certains projets. Je vais pas les détailler, mais il y a aussi cette actualité permanente, c'est-à-dire qu'en gros, je pense comme tous les gens qui sont un peu sur le web, qui sont médiateurs, critiques, etc. Je passe bien une bonne heure par jour à faire de la veille sur les outils, sur les tendances, ça va très vite moi ça m'intéresse, donc, et puis ça fait partie de mon métier de faire des propositions qui sont aussi à jour par rapport à ce qui se passe, non pas liées à la nouveauté mais liées au fait de dire un Google c'est aujourd'hui l'entreprise qui a récupéré tous les marchés publicitaires. Ça touche tout le monde, c'est intéressant d'un point de vue économique, d'un point de vue sociétal, c'est intéressant, donc c'est intéressant que de développer un projet autour de ça, par exemple. Voilà. Et donc, il y a plein de sujets. Après, évidemment, comme chaque artiste, j'ai mes préférences, j'ai mes choix, j'ai mes phobies, mes névroses. Donc, voilà, ça...
Les obsessions.
Les obsessions, ça rentre. Alors, effectivement,
Sur le slogan, là, sur les médias, si tu reviens juste un tout petit peu, toi tu dis nous sommes tous notre propre média. Il y a les Dead Kennedys qui les ancêtres des gens qui sont dans la cyberculture aujourd'hui, donc des punks qui étaient dans la période psychédélique et LSD et compagnie, qui avaient dit don't hate the media, become the media. C'est un peu le slogan qui de la génération internet aujourd'hui quand même.
Oui, c'est sûr que cette question de réappropriation du média de toute façon, après, elle a aussi été récupérée par Dailymotion, par des outils très commerciaux, très grand public. Et tout ce qui est le Web 2, de dire c'est vous qui faites le contenu, nous on crée la matrice qui va héberger le contenu, et c'est vous le producteur, ça a été très 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 bien réinterprété, réutilisé par les grosses entreprises, par Google. Et on va de plus en plus vers ça. Alors après il y a des limites, on est encore en train de changer un peu la notion du blog. Elle a fait exploser aussi tout l'aspect participatif, elle a fait changer la presse aussi dans certains de ses aspects, etc. Mais c'est effectivement ce qu'on abordait un peu au début du web, c'est arrivé massivement à partir de 2004, et maintenant c'est vraiment implanté comme un outil très grand public, des outils très grand public, etc., etc. Alors il y a un moment donné sur tous ces projets qui vont toujours essayer de s'appliquer sur une majorité de personnes, enfin sur le grand public, sur tout le monde, soit d'un point de vue intime comme le mail vers le futur. C'est effectivement un projet qui peut être vu d'un point de vue très intime, puisque je peux m'envoyer un mail à moi-même dans une semaine, dans un an, dans 10 ans. Moi, j'ai des mails de mon père en attente et mon père est décédé. Donc, ça va toucher des questions qui sont aussi propres à tous, quoi. La mort, l'échange, enfin, des choses assez basiques, en fait. Et moi, j'aime bien ça, quoi. Enfin, pour moi, c'est quand même assez important.
Basique, mais c'est un peu essentiel, quand même.
Oui, c'est les choses. Oui, basique au sens essentiel, mais pas au sens simple. Ouais. Alors, Donc ça fait 2 ans que je travaille sur un projet qui s'appelle DotRed. DotRed, ça veut dire point rouge, point lumineux. Et pour moi, c'est la comparaison avec les points lumineux des appareils électroniques quand on les met en veille. C'est l'idée de rester en veille. C'était de dire, alors j'ai remis cette petite phrase, une des perspectives fondamentales des projets artistes en réseau, blablabla. Je me suis dit, c'est quand même hallucinant de voir qu'il y a des sites très importants qui brassent des millions de personnes, des millions de gens, qui nous disent que nous sommes des participants, qui nous font faire plein de choses, qui nous font échanger des flux, mais que finalement tout ça, c'est un peu vide. C'est-à-dire que on a des centaines de milliers de blogs qui tournent un peu en boucle dans le vide, qui s'arrêtent. On a des milliers de vidéos qui sont là, mais le temps passe très vite. Il y a un flux permanent, il y a une sorte de rapidité qui fait qu'on oublie tout de suite ce qui s'est passé le jour d'avant, etc., etc. Et finalement, pour rien. Et je me suis dit, mais c'est quand même hallucinant. D'un côté, il y a ça. D'un autre côté, il y a les jeux vidéo, qui sont aussi une industrie de masse, qui concurrence le cinéma. Qui touchent tout le monde, hein, qui sont dans tous les salons. Pourquoi on n'essaierait pas de faire le lien entre Internet, le jeu vidéo et la réalité? C'est-à-dire que là, alors que j'étais parti dans les années 95 à dire il y a un échange entre la réalité et le virtuel au sens des flux, au sens des images, des sons, de la matière, là j'ai envie, lorsque je suis sur le réseau et lorsque j'agis sur le réseau, que ça puisse agir dans le réel, mais pas seulement agir au sens plastique, je dirais, au sens visuel, mais agir vraiment, quoi. C'est-à-dire, donc c'est un peu, c'est pas politique, mais c'est citoyen même. C'est de dire comment je peux essayer de changer les choses à partir d'Internet. Donc comment changer le réel à partir du virtuel? Alors c'est bien d'avoir des idées, parce que une fois qu'on a dit ça... C'est un putain de boulot, quoi. C'est-à-dire de se dire, OK, je veux essayer de faire un projet qui va changer le réel à partir du virtuel. Bon, donc comme vous le savez, quand on a un projet, c'est bien beau, mais ensuite, il faut trouver éventuellement les partenaires. Alors moi, j'ai l'habitude de faire les projets moi-même, parce que souvent, je trouve ça plus fatigant et plus long que de les faire faire, quoi. Bon, mais là, pour la première fois, je me suis dit, je vais rentrer dans une dynamique de résidence, de production, et qui a son intérêt, hein, puisque c'est aussi une forme d'échange, une forme de rencontre avec, voilà. Mais j'aime bien aussi être un peu dans ma cave et faire les choses par moi-même. En tout cas, là, je suis parti sur l'idée d'un jeu sérieux. Ce qu'on appelle un jeu sérieux, c'est une tendance qui est vraiment en train d'émerger, de dire les jeux. Bah, c'est pas seulement pour rire et pour déconner et pour tuer des monstres. C'est aussi pour faire de la pédagogie. Donc, de plus en plus, on voit apparaître des programmes. Alors, ça peut être l'UNESCO qui finance ça. Ça peut être des instituts. J'étais avant-hier à Lille sur un festival de jeux sérieux. Voilà, c'est le premier. Et voilà, c'est de dire avec un jeu, on va pouvoir faire passer des messages. On va pouvoir faire autre chose que juste du jeu comme on l'entend, quoi. Et donc,
c'est une industrie qui vaut quelques millions de dollars déjà. Hein, c'est pas juste un rêve, une utopie, quoi. Il y a par exemple L'Oréal qui forme ses coiffeuses avec un jeu vidéo, mais c'est un jeu sérieux. Et bon, on parle pas de l'armée américaine qui évidemment forme ses soldats à réagir à des situations de crise, de terrorisme, etc. Enfin, l'Irak. C'est un peu, ouais, c'est ça. C'est une des suites des fameux CD-ROM ludo-éducatifs.
Oui.
Mais maintenant, ça prend plutôt la forme du jeu vidéo, donc avec un joystick et une mise en situation. Mais il y en a plein de genres différents. Il y en a aussi qui sont humanitaires pour lutter contre la faim dans le monde et ce genre de choses.
Ouais. Et effectivement, donc je me suis dit. Ce qui serait bien, c'est de faire une application, enfin d'essayer de faire une application où lorsqu'on joue, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe dans la réalité. Donc je suis parti sur ce jeu humanitaire, sur cette notion de jeu humanitaire. Et en gros, pour simplifier, parce que c'est passé par plein d'étapes, le projet était très compliqué, pas très compliqué, mais très lourd à faire au départ, je suis parti sur l'idée de cartographier des villes. Donc j'ai utilisé des outils très standards liés à la Google Map. Alors ça a quand même été fait en Flash. Et donc le but du jeu, en gros, c'est de dire à chaque fois je vais ouvrir une ville, à chaque fois je vais trouver un centre d'art partenaire, des associations, une problématique soit humanitaire, caritative, environnementale, et je vais proposer aux internautes de jouer, de racheter des parcelles de la ville. Alors, racheter, ça veut dire de l'argent, effectivement. Donc, on a commencé par Paris. Donc, effectivement, j'ai passé un an à faire des partenariats avec des associations qui travaillent sur le logement précaire, donc les enfants de Don Quichotte, Habiter Humanise, le DAL. En tout cas, ces cinq-là ont voulu plus ou moins facilement. Hein. Et l'idée, c'était de dire, quand on va jouer, on va payer pour avoir un territoire virtuel, pour racheter un territoire virtuel, dans lequel il va se passer des choses. Donc la notion de gameplay, de jeu, elle va quand même être effective. Mais en tout cas, l'argent va être redistribué à ces associations sous forme de dons. Donc le cadre, c'est ça. Donc j'ai commencé par Paris. Donc il y a eu une exposition, effectivement, au Centre Pompidou, où il y a eu une installation aussi, il y a eu des échanges. Et on est parti sur une interface. Donc là, elle est en Flash. Alors moi, c'est vrai que je viens quand même de plus de l'activisme, de l'open source. Donc, bon, j'étais pas trop pour faire du Flash, mais peu importe. J'étais avec une boîte de prod qui était plutôt branchée sur Flash. Donc, on est parti sur une notion de Flash où effectivement, on a fait une interface. Donc, c'est la première version. Elle a des défauts. Elle doit encore s'améliorer. Mais l'idée, en gros, hein, c'est que je me promène sur une Google Map. Donc là, c'est Paris. Je zoome à un endroit de la ville que je veux acheter. Voilà, par exemple, je dis je vais acheter un cube, donc je détermine. Puisque quand j'achète une parcelle, je vais avoir un cube en 3D dans la ville, dans cette représentation de la ville de Paris, et ensuite je vais pouvoir rentrer dedans et faire des choses dedans. Donc là, on est parti sur un prix à 2 euros, c'est-à-dire de dire voilà, le cube de base de 2 mètres sur 2, ça correspond à 100 mètres carrés en équivalence. Voilà, c'est 2 euros. Là, je peux personnaliser mon cube, je peux mettre une image sur le toit, donc je vais être visible. Voilà, donc là, j'ai uploadé une image sur le toit de mon cube. Donc là, je suis à l'intérieur de mon cube. Donc vous voyez, là, il y a l'image que j'ai uploadée. Je peux le taguer. C'est-à-dire, je peux mettre des slogans, je peux faire des dessins. Voilà, l'idée, c'est que pourquoi c'est un peu relié aussi aux réseaux sociaux. Alors, il y a une autre raison, c'est que une fois que j'ai créé mon cube, je l'ai payé, je vais l'installer dans la ville, je vais vous montrer. Ensuite, il y a un module Facebook, mais on est en train de faire d'autres modules. Plus j'invite d'amis à participer au jeu, donc moi, plus je fais le prosélytisme du jeu, plus mon cube augmente en hauteur dans la ville. Donc mon cube devient une sorte de gratte-ciel, et c'est par sa hauteur qu'il y a une reconnaissance. C'est mon territoire d'altérité, en fait, ce que j'appelle mon territoire d'altérité. C'est-à-dire, avec 2 euros, en gros, je peux être assez bien vu dans la ville si j'ai beaucoup d'amis, si j'ai ramené beaucoup d'amis. Donc, j'ai un peu utilisé le mode viral des réseaux sociaux de type Facebook. Alors, il y a tout un système, puisque derrière, j'ai monté une association qui ensuite refait des dons tous les 6 mois aux autres associations, etc. Alors, c'est hyper intéressant, hein, mais je crois que j'ai mis en ligne une conférence que j'ai faite à Beaubourg où je vais voir le DAL, ils sont juste en face de chez PayPal, ils sont à 10 mètres, le DAL et PayPal. Et j'ai essayé de faire un partenariat avec PayPal, qui m'a dit on ne soutient pas de projet politique. Enfin bon, j'ai eu des choses assez marrantes en fait. Mais là, je n'ai pas trop le temps de détailler, parce que surtout, je voudrais vous parler de mon prochain projet. Mais en tout cas, voilà. Le développement du projet, c'est qu'évidemment, il y a plus de monde. Vous voyez, là, je ne peux pas parrainer mes amis. Donc là, effectivement, soit je rentre une liste d'emails, eux vont recevoir un mail leur disant de venir acheter un cube dans le jeu, et mon cube va grandir en hauteur, moi. Et là, ça ne va rien me coûter. Donc, on a développé une petite appli qui s'appelle Dotred Find Friends, qui est assez perverse parce qu'ils vous lisent tous vos amis, vous êtes obligé de valider quasi. Voilà. C'est-à-dire que là, moi, en gros, il me dit est-ce que tu veux envoyer à tes 318 amis Il faut que je décoche pour dire non, chaque ami. Donc, ça décourage on a fait exprès. Et voilà. Donc là, si je dis OK, tous mes amis Facebook vont recevoir un email. Comme quoi ils peuvent venir jouer dans Facebook, et moi je deviens leur parrain et mon cube grandit en hauteur. Voilà. C'est un des aspects un peu ludiques de dire le but c'est ça, quoi. Voilà. Alors, je me barre de Facebook. Là c'est pour vous montrer les fonctions. Donc l'idée c'est que dans le cube on va pouvoir mettre des vidéos, des photos, des diaporamas. Moi mon rêve, mais c'est vraiment un rêve, mon rêve c'est que ce soit un réseau social au sens à la Facebook un peu, c'est-à-dire que on vient échanger dans son cube, il se passe des choses. Deuxième développement, c'est qu'on développe plusieurs villes. Donc là il y a la notion de autre mission. Alors là j'ai créé une ville. Donc normalement je vais faire ça au Polo l'année prochaine, enfin au mois de mai juin. Pour travailler sur un projet sur les favelas, donc avec un centre d'art, on va numériser Sao Paulo et trouver une problématique, parce que l'idée c'est qu'à chaque ville il y a une problématique différente. Là j'ai créé Dotred Land, qui est une île paumée du Pacifique, voilà, c'est les Galapagos. Mais en test, hein, c'était pour vous dire que voilà, l'idée c'est qu'ensuite on aura un schéma de villes comme ça qui ont chacun leur problématique, où l'argent va à chaque fois à des associations différentes, etc. etc. Voilà, alors pour finir sur Dotred, moi ce qui s'est passé, c'est un peu comme je vous le disais, moi ce qui m'intéresse, enfin je fais de la programmation, etc., etc. Et là j'étais assez frustré, même si le programmateur est génial et je suis super content et tout ça, de pas aller assez vite. Voilà, c'est une résidence, elle est terminée. Maintenant on me dit il faut trouver de l'argent, donc il faut des subventions. Donc si les subventions viennent pas, je suis bloqué. Moi je fais pas de flash, donc je vais pas me mettre à faire du flash, ça prend trop de temps, etc. Donc je peux pas avancer vite moi là-dessus. Donc je me suis dit il faut que je crée un truc qui s'appelle Open.red, tout simplement, en disant on peut créer d'autres interfaces sur la même base d'utilisateur. La base c'est du MySQL. Enfin pour ceux qui connaissent, en gros c'est une base de données qui est indépendante. Et donc, je peux aussi proposer à des centres d'art, à des universités, à des écoles d'art, etc., de dire, développer une interface, peut-être en 2D, peut-être de type Monopoly, peut-être, etc., etc. Voilà. Alors moi, j'ai commencé moi, parce que du coup, j'ai été frustré, quoi. Et donc, j'ai fait des tests avec Google Maps et Google Earth, mais en dehors du jeu, quoi. Puisqu'on peut faire plus de choses. Donc par exemple, là j'ai fait un Google Maps plutôt classique avec la liste des utilisateurs, des gens qui ont acheté des cubes, vous voyez ici, truc assez simple, mais déjà là rien que ça, ça me permet, alors que contrairement dans l'autre version je ne peux pas le faire, de voir tous les pays directement sur la Google Maps, puisque On a testé aussi avec une île, avec Lisbonne. Là, on a. Et puis, si je vais au Galapagos, là, ma petite île, j'y vais direct comme ça. Donc là, voilà. Par exemple, j'ai fait ça. Et je me suis dit, mais alors, c'est infini. Je peux faire une connexion avec Second Life. Je peux faire une connexion avec. Et donc, il y a Google Earth, qui est un truc, moi, je trouve ça extraordinaire. Et je me suis dit, bah, je vais essayer de faire du Google Earth aussi, parce qu'ils viennent de sortir une version en ligne, que pour PC pour l'instant. Sinon, vous installez l'application Google Earth et c'est pareil. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est qu'on peut vraiment, du coup, à partir de la base, créer n'importe quelle interface. Et ça, du coup, ça m'amuse beaucoup plus. Parce qu'une proposition aussi à une ville, c'est de dire, ben, vous développez votre interface qui va être connectée avec les autres de toute façon, qui va reprendre. Voilà. Donc là, je suis dans Google Earth et je me suis amusé à aller taper dans la base directement et donc de voir les cubes, les mêmes cubes que vous voyez dans Flash,
Et
mais là, c'est pas du Flash.
ils sont à la dimension
Ouais,
de réel, quoi. Enfin, je veux
ouais.
dire,
Ouais,
du montant ce
ouais,
qu'ils ont acheté, quoi.
ouais. Ouais, absolument. Ouais. Alors, la notion de peindre, elle a été lancée il y a un mois. J'ai encore fait aucune pub dessus, etc. J'ai pas relancé le truc sur cette nouvelle fonction. Mais l'idée aussi, c'est de faire des performances. Disons que voilà, l'idée, c'est de dire voilà, avec un centre d'art, avec une ville, etc. On fait une ouverture, il y a une performance, il y a éventuellement un travail avec d'autres artistes sur l'utilisation des cubes.
Parce que pour l'instant, effectivement, le truc, c'est que quand tu as acheté ton cube et que tu as fait ton petit bout de peinture, tu t'embêtes un peu, quoi. Enfin, t'as pas grand-chose d'autre à faire. Donc,
C'est
si,
ça
mais quand
que
tu
tu
les
veux dire?
places,
Ah, si,
tu peux
si,
en
si, il y a,
acheter plusieurs.
si, si, il y a quelqu'un qui a fait un message, qui a écrit des cubes, qui a acheté plusieurs cubes et qui a fait un message comme ça,
Ah,
si,
Space Invader, il aurait pu venir mettre une
Ouais,
petite
voilà,
figure
ouais.
d'Invader. C'est possible. Effectivement, il y a des possibilités, mais c'est vrai que pour l'instant, moi, je pense que on y va une fois,
Ah
on
oui,
achète son
bah,
petit cube et puis
c'est
on n'y
pas
revient pas
assez.
forcément parce qu'il se passe pas
Bah oui.
grand-chose, quoi.
C'est pour ça qu'il faut que je rajoute, mais qu'il faut du coup que je trouve de l'argent pour le faire. Enfin bon, après, c'est quand même un gros projet. Et
Ah bah c'est vachement mieux comme ça.
ben Google Earth, c'est génial. Non, non, mais Google Earth, c'est vraiment génial. Après, en plus, il y a des scripts où on peut mettre une petite voiture qui circule dans la ville. Là, Paris, c'est plat, mais sur des Google Earth, ça fait du relief aussi. Donc on peut travailler sur des zones où il y a. Et surtout, on peut importer des modèles en 3D. C'est pour ça que ça m'a beaucoup plus excité d'aller sur des choses comme ça, quoi.
Et quand tu disais que tu pouvais le connecter avec Second Life, c'est-à-dire que depuis ton cube, tu
Je ne l'ai pas
pourrais.
fait, hein, mais on
Ouais,
pourrait.
mais
Oui,
depuis
puisque.
le cube, on pourrait ouvrir.
Ou plutôt depuis Second Life, on pourrait dire il y a une île sur Second Life
Ouais.
qui fait partie du jeu et après
Ah oui.
la reconnecter aux autres, quoi. Mais voilà, enfin, c'était pour vous donner un peu l'aperçu du projet. Donc c'est un projet assez complet, c'est-à-dire il va de la théorie, donc c'est plutôt dans le petit bouquin que je vous ai donné sur tous les aspects, pourquoi le Web 2 c'est ça et pourquoi ça devrait être aussi autre chose, et comment un projet comme ça peut évoluer. Voilà. Donc ça m'a pris 2 ans de boulot et c'est
Oui,
bien et ça va
en moyenne,
continuer.
juste pour recadrer, la moyenne d'un budget de développement d'un jeu vidéo, c'est 30 millions d'euros. Bon,
Bon,
combien t'as
donc.
eu pour développer ton projet?
Alors, la résidence, moi, j'ai rien eu. Ça a été un ingénieur graphiste. Et pour l'instant, pas grand-chose, quoi.
Donc,
Une bourse ou
non.
deux. Mais voilà. Donc, j'espère avoir le CNC. Je sais pas. Enfin, on verra, quoi. Mais sinon, sinon, il est possible que j'arrête. Hein, parce que le problème, c'est qu'il y a un moment donné aussi. Enfin, là, c'est un peu la condition de l'artiste. On va pas trop rentrer là-dedans. Mais j'aime pas trop. Mais. Bon, on travaille gratos tout le temps, donc il y a un moment donné, alors si on n'est pas pertinent, bon machin, mais bon, il y a un moment donné, si on est pertinent, s'il y a un retour, si moi je me place dans le public vraiment et j'ai pas envie d'aller dans le privé. On m'a déjà fait des propositions avec Téléweb notamment. Évidemment, si je me mets en concurrence avec des boîtes privées, elles me proposent de me racheter, quoi. Moi, je défends un modèle qui j'ai pas envie, quoi. Ou sinon, je monte une boîte et basta. Tout le propos, c'est aussi de pas de voilà de dire avec le web, on peut faire autre chose que des startups, quoi. Donc, alors ça, c'est un autre problème. Ça, c'est le problème de la médiation de l'art numérique. Comment il est pas encore bien vu, bien compris, et comment il est pas encore bien intégré dans le milieu pas tant de l'art contemporain, mais du circuit de l'art, parce que.
Marginal.
On ne crée pas tellement d'objets, l'objet virtuel, comment on le vend, comment on le
Ouais, c'est
décline.
plus une question de marché.
Et c'est un problème de marché. Mais c'est jeune, hein. Oui, voilà, après, ça peut être du mécénat sur un projet comme ça, ça peut être. Mais en même temps, vous voyez, moi j'ai essayé de faire du mécénat, j'ai été voir eBay, j'ai été voir des gens comme ça, ils m'ont dit, mais c'est politique ton projet. Et je vais vous parler du prochain projet, c'est pareil, c'est-à-dire que je vais voir une boîte qui fait des robots, je leur dis, est-ce que je peux faire des robots qui vont se battre? Ils me disent, ah ben non, nous on te prête pas ce robot s'ils se battent parce qu'on veut pas une image négative du robot. Donc, à un moment donné, on peut faire des. Enfin, c'est compliqué. Enfin, je sais pas. Moi, je sais que c'est. Pour moi, c'est un peu compliqué. J'essaye hein, souvent, mais. Enfin, c'est. Voilà. Alors, je voulais, en dernière partie, à moins que vous ayez des questions, peut-être, ouais, je sais pas.
Par rapport à Google Earth, je me demande si c'est une très bonne idée d'écrire d'autres aides sur les.
Non, c'est en test, hein, ça.
D'accord.
Non, c'est pas. Parce que ça, c'est vraiment sinon, des petits trucs pour moi.
Sinon, on rentre dans une ambiguïté intéressante. Où on peut se demander quel est le moteur du gameplay en termes de jeux vidéo. Et là, on voit qu'il y en a deux. C'est-à-dire, soit les gens mettent une image dessus, et donc c'est le narcissisme, ouais. Soit il y a la marque du jeu lui-même, et c'est la promotion du jeu, qui n'est pas chère à 2 €, mais qui est finalement payée par le joueur. Et donc, c'est intéressant, parce qu'on est dans cette oscillation où celui qui joue gagne de la visibilité, ou donne de la visibilité à la marque. Et là, évidemment, ça introduit une ambiguïté, disons, sur le propos, sur l'aspect général, généreux et général du propos.
Là, ce que je vous montre dans Google Maps, Google Earth, c'est des trucs que je ne montre pas dans le site. C'est vraiment les tests que je fais moi pour des versions, pour des prochaines versions. Mais effectivement, c'est intéressant ce que tu dis. De toute façon, c'est vrai que le moteur du jeu, c'est « je suis le plus visible ». Plus j'ai d'amis, plus je ramène d'amis, plus mon cube va grandir en hauteur, donc va être visible dans la ville. C'est le One Million Dollar Project version voilà.
3D. Oui, mais tu comprends bien qu'une tour, plus elle est grande et plus le nom est grand dessus, plus ça ressemble à une multinationale qui est en train de faire sa promotion.
Ah, mais c'est ce qui s'est passé dans d'autres aides. C'est-à-dire qu'il y a. Moi, c'est ouvert à tout le monde. Donc les boîtes...
Mais pour l'instant, c'est d'autres aides qui est écrit en gros.
Non, mais là, c'est des tests, ça. Le vrai jeu, il n'y a pas de. J'ai pas mis le logo d'autres aides, en fait.
Effectivement, les entreprises peuvent très bien acheter des cubes et mettre leur logo en gros. Dans la mesure où ils peuvent...
J'ai même eu des boîtes, c'est surtout des boîtes de com qui m'ont appelé en me disant on ne pourrait pas récupérer votre truc. Ils ont créé leur cube, ils ont fait leur pub sur le. Non, mais je me suis même frité avec une boîte en fait, de com parce qu'elle voulait me piquer l'idée directement pour faire un truc à la défense avec. Mais effectivement, de toute façon, l'idée, c'est de jouer sur la viralité, sur l'idée de dire je veux être le plus visible dans la ville. C'est ça un peu le moteur du jeu, effectivement. Et comme ça verra tout le monde, mais moi, je suis ravi si une boîte, elle achète 10 000 mètres carrés. Moi, le but, c'est que l'argent derrière va aux associations. Donc, au contraire. Tu vois.
Dans Second Life, il y a eu ce phénomène d'entrisme des entreprises, puisque Second Life, c'est aussi un univers généré par ses utilisateurs. Et effectivement, dans Second Life, il y a eu une espèce de privatisation de l'espace public ludique et avec des entreprises qui ouvraient des espaces, etc. Aujourd'hui, il y a une espèce de retour en arrière. Il y a par exemple Reuters qui a fermé son bureau dans Second Life parce que ça marche plus autant, qu'il y a moins d'adhésion, on va dire, au modèle de Second Life. Donc, moi, je dis, tant mieux s'ils viennent, ça veut dire que ça les attire et que le projet, si ça intéresse les publicitaires, ça veut dire que ça peut intéresser plus largement le grand public, quoi. Malheureusement, aujourd'hui...
De toute façon, après, c'est que des conteneurs, tout ça. C'est que des matrices. Après, c'est quoi l'objectif réel? C'est quoi le... Moi, vraiment, là, sur ce projet, tout le monde peut acheter, mais je ne suis pas une entreprise. Donc, le but, c'est de reloger des gens. Voilà, clairement, c'est ça. Après, si pour ça, on se met un nez rouge et on fait les clowns, dans le jeu, ça va. Pour moi, ça me va, quoi. Après, c'est comment être le plus efficace possible. Ce n'est pas super efficace. J'ai eu une méga com. J'ai eu beaucoup d'articles dans la presse et tout. Il n'y avait aucune fonction. Ça marche pas très bien. Il faut du temps. Il faut que les gens reviennent. C'est très compliqué, un projet web, pour qu'ils fassent adhérer. Téléweb, j'avais quand même 2000 télés à l'époque. C'est pas mal. 1400 cm3, là, le site, ce site-là, c'est j'arrive à 1000 personnes qui ont créé un compte. Alors, c'est vrai que la force marketing d'une grosse boîte, elle est monstrueuse. Je veux dire, ils mettent des millions pour faire de la pub. Nous, on est malgré tout dans des petites sphères. On a une pub, bon, bah, c'est la presse qui nous fait de la pub, c'est des choses comme ça. Mais c'est quand même très compliqué de tenir sans faire de relance, avoir une équipe marketing, une équipe de com, des projets comme ça. Et moi, c'est un vrai problème, ça, c'est un vrai problème, c'est de me dire pourquoi le web est en train d'être pris par les entreprises. C'est parce que alors, il y a tout le domaine open source, il y a le. Moi, je trouve ça très bien que de plus en plus d'applications comme OpenOffice, comme Linux, des choses comme ça, sont en train de prendre le marché et en train de se décliner sur des machines pour être grand public. Mais sur le web, pour l'instant, toutes les applications, à part Wikipédia, toutes les applications de masse sont prises par les grosses boîtes et gérées par la pub. Donc, Facebook notamment, MySpace, enfin, je veux dire, Google, c'est le mail, c'est quand même le truc le plus utilisé sur le net. C'est des grosses boîtes avec un modèle très précis. Il n'y a pas de contre-modèle. Il y en a en théorie, mais pourquoi il n'y a pas un Facebook pourquoi il n'y a pas un Facebook qui ne soit pas sur un modèle commercial? Je trouve ça hallucinant. Pour l'instant, on est encore dans une phase où c'est assez problématique. Alors, bon, on fait ce qu'on peut, on lance des contre-modèles, mais on est des artistes, donc à un moment donné, c'est un peu comme la presse, on alerte les choses, on essaie de... Mais c'est plutôt assez difficile, quoi, je trouve.
David, si tu avais un collectif de mécènes, je sais pas moi, ou la mairie de Paris, il faudrait qu'ils déboursent combien pour acheter tout Paris sur Dotred? Et combien d'argent ils reverseraient aux associations?
Alors, Dotred, c'est 1 million de parcelles de 100 mètres carrés. Donc, c'est 2 millions d'euros. Si quelqu'un veut acheter tout Paris, c'est 2 millions d'euros.
Ah, il y avait une deuxième partie de la question, c'était combien est reversé aux associations?
Alors, le modèle, pour l'instant, il y a 20% de fonds propres. C'est-à-dire qu'il y a 20% qui sont gardés dans l'association qui a été créée pour Dotred pour payer voilà, les frais. Bon, mais alors, 20%, c'est pas mal quand il y a 2 millions, mais quand il y a 1000 euros, c'est rien, quoi. Donc... Bah, j'ai pas voulu mettre trop. Enfin, c'est compliqué aussi de savoir ça. Enfin, tu vois, bon, c'est un modèle associatif de toute façon. Donc, c'est un modèle qui est financé par le public, financé par les villes. Je pense qu'une ville, enfin, je sais pas, pareil, il y a une ville qui m'a dit, mais combien ça nous coûterait. Moi, je dis, je sais pas. Enfin, quand je me renseigne un peu autour de moi, les gens qui sont plutôt dans les villes, dans les régions, je leur dis, moi, ce serait bien qu'il y ait au moins 5000 euros, quoi. Parce que voilà, si une ville donne 5000 euros, on peut lui faire un immense cube au milieu de la ville avec le logo de la mairie. Ça fait beaucoup de com. Et 5000 euros, c'est pas beaucoup, mais ça paye un programmeur sur 3 mois qui va améliorer puissance 10 la version. Parce que le truc, c'est qu'il... le problème, il est toujours là. Le nœud du truc, c'est la programmation derrière. Voilà, quoi. Non, mais c'est quand même c'est contraint après ce qu'on appelle la publicité. C'est-à-dire que, effectivement, tout le modèle Web2, il est gratuit pour l'utilisateur. C'est un peu la sucette. C'est-à-dire qu'on te dit, bah oui, ton mail, on a créé un logiciel pour toi qui va te permettre d'échanger, qui va te permettre de communiquer. Il est gratuit. Donc, en échange, tu nous donnes ce que tu es. C'est-à-dire, tu nous donnes ton identité. J'ai fait tout un projet sur les réseaux ghetto, les réseaux sociaux de type Facebook. Pour moi, c'est des ghettos. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on ne peut pas indéfiniment demander aux gens de donner toute leur vie privée qui est ensuite analysée. Enfin, je veux dire, sur Facebook, par exemple, et même sur Google. Hein, enfin, sur le mail Google, quand tu écris « Je vais à Strasbourg la semaine prochaine », tu as tout de suite des pubs liées à Strasbourg, hôtel à Strasbourg, machin. Donc, c'est-à-dire, ton message, il est le web sémantique analytique, il est... là, d'un point de vue lacanien, c'est... c'est parfait. Une autre des fonctions, mais je vais finir avec ce projet parce que je voudrais parler de l'autre, c'est de dire, quand je suis dans mon cube, tous les cubes que j'ai achetés dans les autres villes ou dans les autres pays, je peux me télétransporter directement. J'ai une visibilité des cubes, de mes cubes, de mes autres cubes et des cubes de mes amis aussi. Donc, on va avoir une navigation, une hyper-navigation de cube en cube. Bon, ça marche bien quand il y a plusieurs villes. Et ça aussi, ça va permettre, c'est aussi un moteur, quoi. C'est de dire, je vais passer d'un cube à l'autre sans passer par la Google Map. Et du coup, je vais avoir envie d'avoir le plus d'amis possible pour avoir tous ces cubes, avoir cette représentation aussi multicube, en fait. Mais c'est un projet qui débute, enfin, dans son application, il débute. Hein, donc, il y a plein de choses à faire. Et je peux vous assurer que le projet de départ tel que j'ai défini, il est 10 fois plus monstrueux. Après, il y a plein de contraintes qui ont fait qu'on l'a simplifié aussi, etc.
Ouais, une des contraintes, c'est qu'on tienne le temps imparti. Donc, si on pouvait passer
Alors,
à ton projet.
Donc, le prochain projet, le projet sur lequel je suis en train de travailler, parce que je suis un peu comme Maurice, on aime bien avoir 10 projets à la fois et essayer de les faire tant bien soit peu, quoi. Alors, le projet, c'est, il s'appelle pour l'instant Disque dur humain. Et c'est vraiment la suite du disque dur papier qu'on n'a donc pas vu, puisque ça a planté. Enfin, on a quand même vu un petit extrait. Moi, je suis très obsédé par l'idée de mémoire, de perte de mémoire, et justement ce que le web peut apporter par rapport à ça. Mais c'est surtout cette idée de dire que notre mémoire collective, elle est de plus en plus numérique. Et le projet Hypermoi, c'est non pas tant l'ego, c'est pas du tout l'ego, c'est plutôt le fait de dire qu'on laisse de plus en plus de traces de nos mémoires sur le web, puisqu'on passe toute la journée sur le web à envoyer des mails, à mettre des photos, etc. Et l'hypermoi, c'est plutôt un moi connecté au sens du désir et au sens de la projection, quoi. Et c'est pas l'ego, tellement. Mais en tout cas, ce projet-là, c'était de dire... Le disque dur papier, qu'est-ce que j'ai fait avec le disque dur papier? Je me suis dit, il faut trouver un moyen de revenir au papier qui est un support plus pérenne, tout simplement, que le CD-ROM, le DVD, et que le web. Puisque le web, malgré tout, alors c'est un réseau, c'est dynamique, ça bouge tout le temps, c'est monstrueux, mais c'est tenu par 7 nœuds dans le monde. En gros, il y a 7 serveurs centraux qui gèrent tout le web. Et la plupart sont aux États-Unis d'ailleurs, je crois. Mais il n'y a pas que aux États-Unis.
Pas que, non, il y a aussi en Asie.
En Asie, ouais.
Il n'y en a pas en Afrique.
Ouais.
Bizarrement,
ouais. Mais c'est surtout de dire que toute cette mémoire collective, cette mémoire, ce support auquel on donne de plus en plus de notre mémoire personnelle aussi, il peut disparaître comme ça. Et finalement, notre civilisation, elle génère une histoire qui est complètement volatile, en fait. C'est de la mémoire volatile. Et moi, ça me fait un peu flipper, en même temps, comme ça pourrait le faire avec tout le monde. Et je me suis dit, il faut trouver des solutions. C'est du bricolage, mais le disque dur papier, c'est ça, c'est de dire, on prend un fichier, on prend le code du fichier, on l'imprime. Et la technique, là, c'est d'appliquer une fonction zoomatique sur le fichier. Et donc, sur une page papier, je peux mettre... potentiellement, j'ai pas réussi à le faire, mais potentiellement 100 mégas sur une feuille en papier. Mais avec l'idée de dire si le fichier disparaît, donc si l'ordinateur disparaît, au moment où l'ordinateur va réapparaître, puisqu'on va le remettre en route, ce réseau, ces ordinateurs, je pourrais scanner ce fichier papier et retrouver mon fichier original, que ce soit de l'image, du son d'ailleurs, puisque je vais travailler sur le code du fichier. Et comme vous le savez peut-être, enfin, vous le savez, je pense, ceux qui sont un peu dans l'informatique, mais n'importe quel contenu numérique, c'est un code, au départ, qui sont des 0 et des 1, ou des caractères. Et je vais vous faire une démo, d'ailleurs, c'est assez marrant. Juste le PopLab, là, pour vous montrer ce que ça donnait sur un plus petit fichier. Vous voyez, là, j'ai scanné une image. Donc là, je ne la vois pas, mais en appliquant un zoom, et j'ai réussi sous Adobe de faire un zoom x 100, plus petit. Donc, si vous voulez, la police de caractère classique, elle fait 10. Si j'applique une police de caractère de 0.1, j'ai un zoom de 100 donc, sur un caractère. C'est tout bête en fait, mais c'est marrant de voir le résultat, puisqu'il faut, pour voir le résultat du fichier, donc là c'est un petit fichier, hein, mais d'un moment je vais arriver au code du fichier. Alors ce qui est marrant, c'est que sur un écran, on le voit, une imprimante elle pète les plombs quand elle imprime ça. C'est un peu le microfilm... Voilà, donc là, j'arrive au code du fichier. Donc là, je suis en zoom 6400. Je peux pas aller plus loin avec Adobe Reader. Mais... Donc c'est quand même assez marrant. Et si je l'imprime et je le scanne, et je refais la même chose, blablabla. Voilà, donc ça c'était l'idée du disque sur papier. L'idée du disque dur humain... c'est un peu la même, en fait, elle est partie de la, enfin, en tout cas, des mêmes considérations. Alors, il n'est pas fait comme projet, mais je trouvais intéressant justement de vous montrer un peu les pistes. C'est de dire, les livres, Ils sont numérisés de plus en plus. Il y a, je crois qu'il y a Europana là qui est, enfin j'ai pas réussi, mais oui, normalement qui numérise ses livres. Il y a le projet Gutenberg qui existe depuis longtemps. Il y a le projet Wikisource qui est une extension du projet Wikipédia qui numérise les livres aussi. Il y a plusieurs centaines de milliers de livres. Donc ces centaines de milliers de livres, ils sont disponibles. Pourquoi on n'essaierait pas de faire ce que j'appelle un disque dur humain, c'est pas très beau, mais l'idée de dire que c'est l'humain qui se réapproprie la mémoire de ses livres, exactement comme dans le film, en apprenant par cœur un segment d'un des livres. En tout cas, au départ, je suis parti sur la notion de livre. Ensuite, j'ai un peu dérivé. En tout cas, ça va être un projet avec les livres. Donc l'idée, en tout cas, toute simple, c'est de dire 1 million de livres, si on les divise par 50 millions, si chacun apprend une phrase, eh ben, les 50 millions de personnes connaissent tous les livres qui existent sur Terre. Quoi. Voilà. Alors ça peut marcher avec qu'avec le réseau. Ce serait bien si ça marche, d'ailleurs, c'est pas sûr. Mais l'idée, c'est qu'ensuite, je mette des cartes graphiques, les gens puissent se rencontrer, les gens puissent apprendre le même segment de livres. En plus, il y a les langues, donc c'est aussi intéressant de voir par langue comment ça se passe, par pays. Encore une fois, on crée un réseau social, on crée des réseaux sociaux, et ensuite de mettre en œuvre tout un site web finalement, un peu de la même façon. On a besoin du web pour le faire, pour s'en passer. C'est marrant que tu aies repris cette phrase, parce que c'est exactement ça là.
Plusieurs tribus sur un continent viennent se rejoindre deux fois par an pour donner justement et échanger.
Ah ouais.
Toutes les sources de là où elles se trouvent. Et ils sont à même, en fait, de tenir le savoir de la région là où elles se trouvent.
Excellent. Oui, la tradition orale, finalement, que nous, on a complètement perdue, elle fonctionnait comme ça avant. Enfin, c'est vrai que c'est...
Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas un hasard que ces techniques anciennes reviennent aujourd'hui.
Ah oui, c'est sûr. Moi, c'est une obsession depuis longtemps, l'oralité du web. Je me suis dit, il y a un truc qui n'a pas été fait du tout encore avec le web. Non pas juste lire un fichier texte par un robot, mais vraiment travailler sur cette idée d'oralité et de voix sur le web. Quoi. Enfin,
il y a un projet là en ce moment qui a été lancé par X-Réseau, qui est la lecture de Proust,
ouais,
de façon partagée effectivement à travers toute la planète. Les gens s'inscrivent et chacun lit une page en webcam, et ça s'appelle... Le baiser de la matrice, voilà. Et donc, théoriquement, à l'arrivée, on a Proust reconstitué, à la recherche du temps perdu, par des milliers de lecteurs à travers la planète.
Donc, cette version livre, comme je le mets ici, ben voilà, c'est une possibilité. Et puis après, je me suis dit, mais je voudrais faire une version totale. C'est-à-dire que les livres, c'est bien, puis c'est beau, c'est un peu...
C'est pas assez.
Non, mais c'est
totalement ça.
Non,
mais mégalo, moi,
mais moi je suis un codeur, donc je me dis j'ai envie que ce soit toute la connaissance humaine, quoi. Et donc la version totale, c'est Wikipédia. C'est de dire, ben, quitte à tout prendre, on prend les livres, on prend tout, quoi. On prend Wikipédia. Et donc voilà, donc là je suis en train de réfléchir à savoir comment faire ça. Alors n'importe quel projet est possible à faire. Après, il faut faire des choix, et c'est ça qui est intéressant aussi, et d'avancer, et de, voilà, d'affiner la proposition. Donc là, je vous ai mis un peu... Parce que Wikipédia, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on va sur Wikipédia, effectivement, on tape un mot-clé, on regarde les chapitres, etc. Et je me suis dit, il n'y a pas un endroit où on peut récupérer tout Wikipédia. Et en fait, si... Il y a un site qui s'appelle... Enfin, c'est Wikipédia qui le propose, d'ailleurs, c'est même pas... en fait, on peut faire une requête à Wikipédia et leur dire « Je voudrais tout Wikipédia France dans un fichier. Démerdez-vous, enfin, créez le fichier et envoyez-le-moi. » Enfin, envoyez-le-moi pas, mettez-le sur un site. Donc, finalement, au final, ils ont fait un site qui s'appelle Dump, Database Dump, où, pour chaque langue... Alors, vous savez, dans Wikipédia, il n'y a pas que Wikipédia, il y a Wikisource, c'est les livres, il y a Wikinews, maintenant, il y a plusieurs... type de connaissances. Voilà. Et là, il y a des requêtes. Alors, il y a des gens qui font des requêtes et eux, ils disent, bah voilà, si je tape FR, voilà. Le dictionnaire Wikipédia français, il a été fait le 28-11-2008, donc aujourd'hui. Donc, je peux le récupérer, c'est un fichier. Et du coup, c'est vachement marrant parce que c'est un fichier texte, en fait. C'est un fichier texte avec ce qu'on appelle un fichier XML. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un fichier XML, c'est un fichier texte, mais qui décrit aussi les types de données. Alors moi, je me suis dit, bah, je vais aller récupérer Wikipédia. c'est un peu pour vous montrer la progression d'un travail, comment ça évolue. Sachant que j'ai cette idée depuis 2 ans, mais voilà, le temps de faire les autres, le temps de machin. Voilà, donc Wikipédia, il propose une version des Wikipédia complète. Tous les articles de Wikipédia, c'est 4 gigas.
Oh, c'est pas énorme.
Maintenant, c'est que du texte, en fait. Après, ils mettent pas les photos, hein, là-dedans. Là, c'est que le test. Alors, moi, je me suis dit... en version pas compressée, mais il y a une version qui est compressée. En fait, celle que vous téléchargez, elle fait 1 giga seulement. Parce qu'il y a un compresseur de fichiers, quoi. Alors, moi, je me suis dit, je vais l'ouvrir, ce fichier. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Je vais l'ouvrir dans un traitement de texte. Sauf que tous les traitements de texte, ils plantent, hein. Donc, on tape dans Google « traitement de texte big file » et on trouve des traitements de texte qui arrivent à ouvrir ces trucs. Voilà, alors lui, je vais aller chercher le fichier que je veux. Donc, Wikipédia, machin. Alors, soit si je prends le compressé, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir des caractères bizarres, je ne vais rien comprendre. Mais moi, dans mon projet, pour l'instant, j'en suis à l'étape où je me dis, je propose quoi aux gens ? Est-ce qu'ils vont apprendre un code ? Comprennent pas. Est-ce que je cartographie tout Wikipédia, c'est-à-dire je mets une sorte de grande carte comme ça et hop, je chope un code, je l'apprends, je l'imprime sur un t-shirt, je l'imprime sur un papier et je suis dépositaire du segment avec d'autres aussi, je peux l'être avec d'autres. Donc finalement ce code, il peut être codé. S'il est codé, j'ai besoin de moins de gens puisqu'après il faut faire reconstituer le fichier, si tout explose, il faut faire réunir les gens. Alors moi, pour l'instant, je sais pas. Est-ce que je me donne le fichier codé ? Le fichier pas codé, il fait 4 gigas. Ce fichier, il fait quand même 80 millions de lignes. Donc j'ai vraiment toute la connaissance là dans le fichier. Hein. C'est-à-dire que j'ai tout Wikipédia, quoi. C'est juste hyper marrant quand même. Donc mon projet, ça peut être de dire, je sais pas, mais moi j'ai des idées, mais peut-être que je sais pas, ça, je vais participer si ça vous intéresse. Vous avez peut-être des meilleures idées, quoi, mais. Soit je m'inscris, je mets mon nom, je mets où j'habite, j'ai une cartographie avec moi comme personne et le logiciel me dit tiens, toi tu apprends ce code et tu connais ton successeur et ton prédécesseur dans la chaîne du Big Dump, quoi, dans la chaîne de tout Wikipédia, et ton rôle à toi finalement c'est juste d'être le conteneur de ce code là. Soit tu choisis par pays, on peut aller beaucoup plus loin parce que là, le big dump, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que Wikipédia, il y a une base de données, je peux l'interroger, je peux lui dire, ramène-moi l'article, tous les articles qui commencent par A. Ramène-moi tous les articles qui parlent de bouche. Donc ça, je peux affiner la demande par rapport à l'utilisateur. L'utilisateur choisit son thème et on lui dit, voilà ce qui reste de libre, ou voilà déjà les gens qui sont machin. Par exemple, dans la version livre, ce qu'on a pensé faire, c'est de dire, on affiche le livre. On tourne les pages du livre et on voit tous les gens qui sont sur les segments qu'ils auront appris. Donc je vois les gens sont tagués dans le livre. Donc un livre, c'est 2000 personnes, par exemple. Et je les vois, je peux éventuellement chatter avec eux, je peux éventuellement les rencontrer. Puis à un moment donné, il faudra qu'on se rencontre, quoi. Donc il y a aussi. C'est pour ça que c'est un réseau social aussi, vraiment au sens vrai du terme, quoi. Voilà, c'est ouvert en tout cas. Par exemple, ce que je me suis dit, donc si je le découpe, alors je me dis comment je peux découper un fichier comme ça ? J'ai trouvé un programme qui découpe. J'ai tapé dans Google big file cut. J'ai trouvé un programme génial et voilà. Et donc par exemple, là, il m'a découpé, vous voyez, mon fichier fait 4 gigas. J'ai essayé 10 mégas. J'ai dit, je vais encore découper celui-là encore plus petit, machin. Et j'arrive à 2 mégas. Je peux ouvrir 3000 serveurs free, les mettre un peu partout, les mettre en peer-to-peer, justement. C'est ça un peu l'objectif de peer-to-peer. Je peux très bien m'amuser comme ça, à les découper vraiment même à un mot près, quoi. Alors j'aurai 100 millions de petits fichiers, mais 100 millions, c'est rien en fait, quoi. En termes de fichiers, je peux les dispatcher partout, peu importe, quoi.
Mais pour mettre en place le dispositif, tu as quand même besoin du web, quoi. Tu ne peux pas le faire en dehors du web dans un premier temps.
Moi, j'ai
une question. Je comprends pas pourquoi on apprendrait un code. Pourquoi on n'apprendrait pas directement une phrase, quoi. Enfin, du sens, quoi. Parce que moi, j'ai pas. Moi, j'ai un mal absolu à retenir les chiffres, des trucs. Ah, je sais que c'est plus simple de retenir une poésie que d'apprendre les tables de multiplication quand on est enfant, par exemple.
Oui, alors moi j'aime bien cette idée qu'il y ait plusieurs personnes sur le même segment. Ouais. Et y a... c'est l'idée.
Oui, mais alors tout le monde va prendre la même chose. Il va y avoir des trucs qui ne seront jamais repris par personne.
J'ai un micro, donc je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que disait Maurice, par exemple, c'est que dans l'idée du recouvrement, c'est que c'est comme ça qu'on a reconstruit le génome humain, par exemple. C'est-à-dire qu'on est parti de ce qu'on appelle Express Second Stack, EST. Ouais. Donc on a des petits bouts de génome, et à partir d'un algorithme assez complexe, on a réussi, par recouvrement, comme ça, à reconstruire tout le génome. Et donc dans l'idée des duplicats, c'est aussi quelque chose qui se rapproche de la biologie aussi.
Ben oui, parce qu'on est sur des codes aussi, donc effectivement, c'est... Oui.
C'est un système ouvert qui permettrait aux gens, merci Jocelyne, finalement de partager le savoir qu'ils ont envie de partager, c'est-à-dire pas forcément limiter ça à Wikipédia, mais à se dire y a telle source d'information sur le web, on a envie de s'approprier. Par exemple, moi, je pense à un site que j'ai découvert par hasard qui répertorie toutes les langues parlées dans le monde, y compris les dialectes, etc. Ouais. On pourrait vraiment imaginer.
Il n'est pas sur Wikipédia. Il n'y a pas un article dans Wikipédia.
Là, franchement, c'est par exemple, je sais pas moi, rien que pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, on a une cinquantaine de dialectes différents, de langues, qui ont chacun un code ISO. Donc c'est ça qui est intéressant, parce que c'est tout est répertorié. Et on pourrait vraiment imaginer, à partir de cette base de données, contribuer à faire survivre ces langues qui parfois sont parlées que par 50 personnes. Mais au-delà même du savoir, je pense que c'est ce qui est intéressant dans ce projet, ce qui moi me touche particulièrement, c'est que on est face à une masse d'informations telle que on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui ressort. Dans notre vie, on ne sera probablement pas amené à traverser justement toutes les informations qui sont maintenant disponibles. En plus, on les met personnellement, c'est-à-dire que ce n'est même pas une connaissance partagée. Il y a aussi les connaissances de chaque individu et de la vie de chaque individu. Et c'est comment est-ce qu'on arrive à refaire ressortir de l'information de toute cette masse, quoi.
Bien sûr, ça sert. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois que j'aurai fait la matrice qui permet de gérer ça, après, on peut l'appliquer sur... à la limite, on peut faire son disque dur humain à soi-même, quoi.
mais je trouve que justement ce qui est intéressant dans l'idée du Wikipédia, c'est que tu appliques à l'humain, donc au physique, au monde réel, une des propriétés du réseau, qui est effectivement l'arborescence et l'hyper mémoire d'une certaine manière, parce que effectivement on n'arrivera jamais, enfin une vie n'y suffirait pas de s'approprier l'ensemble des flux, mais même imaginons, reportons-nous en arrière quand le web n'existait pas, je veux dire c'était aussi très compliqué d'avoir une vision entière de toute la science, de toute l'histoire de l'art, de toute l'histoire, de tout le savoir de l'humanité. Personne le savoir encyclopédique, ça fait bien longtemps qu'on peut plus estimer que qui que ce soit et ce savoir-là. Donc il faut, l'idée c'est de partager, c'est un peu c'est la vieille lune de l'intelligence collective, quoi. Là je trouve que c'est de l'intelligence collective, mais côté complètement petite fourmi, quoi. C'est ça que j'aime bien.
Oui, c'est ça. Là c'est vrai que c'est presque bête, c'est de dire j'apprends un code et je fais partie d'un tout, et puis c'est surtout cette question de mémoire qui est fragile, en fait. Finalement, cet outil qui est aussi génial, qui permet d'aller partout et de tout voir, même si on a des limites, nous, et on focalise sur, finalement, notre monde et notre environnement, il est fragile. Il a jamais autant aussi été fragile. Était autant aussi fragile. Voilà, donc...
Ce qui serait peut-être intéressant de savoir, mais c'est totalement différent comme mode de pensée, c'est que si tout se mettait à bugger et qu'on devait repartir d'une connaissance uniquement actuelle en interrogeant chaque personne sur quelque chose qu'il pourrait apporter, ce serait intéressant d'essayer d'imaginer ce que on retiendrait de la connaissance actuelle et ce que la partie qu'on oublierait. En fait, de savoir de quoi on repartirait.
Non, c'est vrai, évidemment, c'est un projet vachement intéressant, à l'inverse, effectivement.
C'est à l'inverse.
De partir de chacun et de voir la tâche. Enfin, entre
voilà, actuellement, quelle est la connaissance?
Ouais. Mais voilà. on est, nous, si on se trouvait sur une île déserte, on saurait pas soigner, on saurait pas créer une voiture. En fait, on est assez bête, chacun individuellement par rapport à la connaissance humaine en général. Enfin, on est tous assez spécialisés, donc.
Voilà,
ça c'est le.
Mais en accumulant cette.
Ouais, vive le papier.
Ouais. Ah, tu veux dire oui, non, mais pour l'instant. Non, mais c'est ça. Ça pose aussi ces questions-là. C'est comment on va être géré la mémoire collective dans 50 ans. Parce que là, il y a du papier, mais parce que le livre résiste pour l'instant. Mais quand il y aura plus de justement, maintenant, on est en train de faire des interfaces qui remplacent le livre. Quand il y aura plus de livres, il y aura plus de papier potentiellement. Tu vois, enfin,
c'est une performance donc de F.K. Tremblay à l'espace Paul Ricard où elle a appris justement le bouquin Fahrenheit.
C'est vrai?
Ouais.
Ah ouais, c'est marrant.
Et elle l'a récité pendant une trentaine de minutes.
Entièrement?
Non, sur cette trentaine de minutes, elle a fait le passage lequel elle était en train de plancher. Et ce qui était intéressant, c'était finalement de voir que la mémoire est défaillante presque tout le temps.
Ah oui, c'est sûr.
Et finalement, dans le film, dans le livre, c'est très utopique de penser que le livre va pouvoir être retenu.
Oui.
Ah bah là, oui, c'est sûr, clair. Une personne qui retient un livre.
On peut tous faire l'exercice. Qui se souvient d'une poésie qu'il a appris à l'école primaire? Parce qu'on a tous été à l'école primaire, a priori.
Au moins.
Alors, au moins une poésie, sans doute. Une, deux, je pense que c'est déjà plus dur. Et trois, alors là, n'en parlons pas. Qui se souvient de trois poésies?
Mais c'est le jeu, il est là, justement.
Bah, en même temps, Wikipédia, il y avait au départ, c'était quand même aussi une utopie. Et aujourd'hui, il y a des contributeurs un peu partout et des gens qui sont... Enfin, je pense qu'ils sont plus de 50 millions à contribuer régulièrement, si ce n'est pas quotidiennement, au moins...
Non, moi, ce que j'avais comme idée par rapport à ça, c'est de dire, je donne un segment et il faut que la personne trouve son successeur. C'est à elle de proposer un successeur au segment suivant.
On peut justement, à partir d'une phrase, pouvoir contribuer à 10, 20, 50 entrées.
Oui, donc
certaines en ont peut-être une ou deux, mais après ça sert.
Oui, mais c'est un problème parce qu'il y a la position. Du coup, il faut aussi coder la position de la phrase. Parce qu'effectivement,
si c'est pour que les gens discutent entre eux dans leur... c'est un peu transversal, voilà, les phrases. Voilà, c'est tout ce que...
Bien sûr.
Donc, tous ces gens qui sont, tous ces mots-clés qui sont en intersection sur Wikipédia vont te donner plusieurs personnes qui apprendront un petit bout de ce même segment, mais autre chose.
Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça que moi, par simplification, entre guillemets aussi.
C'est l'enfer, ton truc.
Non, mais
j'ai mal à la tête.
Non, mais il a raison. C'est-à-dire que quand on va sur Wikipédia et on commence à surfer dans Wikipédia, on s'arrête pas de rentrer, de repartir, etc. Et à ce moment-là, je me dis, c'est infernal, il faut que je trouve une autre solution parce que je pourrais jamais tout embrasser, quoi. Enfin, au sens. Donc, un fichier plat comme ça, tel que celui-là, moi, ça me plaît beaucoup plus parce que là, on le découpe à la hache, quoi. C'est. Tel bout de telle ligne, c'est toi. Parce que ce qui peut être aussi vachement joli, c'est que si je te donne un code seulement, ce code, il correspond à un mot. Tu peux apprendre le code et aller sur Internet et voir à quel mot ça correspond aussi. Donc, il peut y avoir un passage aussi entre le code et le langage, quoi. Et ça, du coup, c'est assez joli. Mais moi, je crois que c'est vachement efficace le fait de dire, on te donne un... Non. Le premier, on lui donne un segment. Et le premier doit trouver son successeur. Lui. Il doit envoyer un mail à un copain à lui. C'est une chaîne, quoi. C'est une chaîne basique, quoi. C'est vraiment de 1-1, quoi. Et lui doit faire pareil. Et ça peut aller très vite, du coup, là. C'est marrant.
Et s'il trouve personne, on lui coupe la tête.
Voilà.
C'est sûr que ça marche. Voilà. Et sur ces paroles... voilà.
Ces belles paroles.
Merci à Maison Populaire. Merci à Brad. Merci à David. Et merci à vous.
Merci à vous. Thank you.